Alors, je suis présentement en compagnie de Gilbert McLaughlin et les post-doctorants au Centre Hate Bias and Extremism de l'Université Ontario Tech. Bonjour Gilbert et merci beaucoup d'avoir accepté de discuter d'extrémistes avec moi aujourd'hui.
Ben, bonjour puis merci beaucoup pour l'invitation.
Alors, on se spécialise, tu te spécialises justement dans l'extrémisme et surtout l'extrémisme de la droite. On parle de médias sociaux aujourd'hui. Commençons en définissant les termes un peu. Dans le contexte politique actuel, qu'est-ce qu'on entend par extrême droite?
En fait, c'est une question compliquée hein, parce que chaque chercheur a un peu sa définition de qu'est-ce qu'on considère comme droite-gauche ou extrémiste. Pour ma part, je considère qu'on peut parler que l'extrême droite en éloignement d'un centre qui serait les principes et les idéaux de la société libérale dans laquelle on est. C'est ça que les gens oublient un peu, hein, parce qu'on pense toujours extrémiste violence. Mais on oublie aussi qu'on a tout le potentiel d'être extrémiste. Hein, c'est-à-dire, s'il y aurait un dictateur qui arriverait au Canada puis on nous mettrait en esclavage, ben, je suis sûr qu'il y a plusieurs aujourd'hui qui ne sont pas violents, qui le deviendraient. Alors, pour moi, l'extrême droite comme l'extrême gauche, hein, ce sont des groupes idéologiques qui s'éloignent de l'idéologie de notre société, c'est-à-dire des principes libéraux. C'est ça, plus loin qu'on est, plus extrême qu'on est.
Et quel genre d'idées, quel genre de politique pousse l'extrême droite en ce moment au Nouveau-Brunswick?
En fait, l'extrême droite, hein, c'est quand même divers. Et parfois, c'est ça que j'essaie de rappeler aux gens, parfois dans des groupes, on a la présence de l'extrême droite, même si le groupe comme tel n'est pas extrême droite. Et alors, c'est d'aller voir qu'est-ce que c'est l'idéologie justement de ces gens-là. Souvent, il y a la nostalgie d'une grandeur perdue, des relents de xénophobie, c'est-à-dire la perte de pureté ethnique ou linguistique ou... une perte de puissance de la civilisation occidentale. On peut trouver une espèce de complaisance avec l'autoritarisme, c'est-à-dire des figures fortes autoritaires. Leur haine de tout quoi ce qui est de l'état-providence et de la gauche en général. Fait que c'est à peu près les grands types qu'on peut retrouver, là.
Alors, ça se manifeste de plusieurs différentes façons, puis justement, en préparation pour cette discussion ici, tu m'as envoyé une liste réellement de groupes et de pages Facebook qui relèvent de l'extrême droite, qui se manifestent de différentes façons. Ma question pour toi, c'est pourquoi est-ce que l'extrême droite semble gagner ce combat en ce moment, ce combat virtuel sur Facebook et les médias sociaux, contrairement à des mouvements d'extrémistes de la gauche plutôt?
C'est une très bonne question, puis je risque de vous décevoir là-dessus parce qu'on cherche des réponses. On voit que depuis quelques années, la droite a vraiment... vraiment les devants en ce qui concerne surtout en ce qui concerne les nombres de groupes à caractère d'extrême droite. On peut parler sur Twitter, sur Facebook, au nom même de tout quoi ce qui est qu'on peut considérer comme la meme war, c'est-à-dire le nombre de mèmes qui sortent sont plutôt tendance à privilégier l'extrême droite. La gauche semble avoir le dessus sur ceux qui considèrent plutôt l'humour, c'est-à-dire les sites satiriques, les sites qui tournent en dérision la droite. L'humour va avoir plus tendance à... la gauche, je veux dire, avoir plus tendance à avoir ces espaces-là. La droite a quand même gagné tout quoi ce qui est du côté des fake news. Quoique la gauche commence à prendre sa place, c'est-à-dire qu'aux États-Unis, je remarque un retour... pas un retour, mais que la gauche prend sa place, considérant dans la place des fausses nouvelles. Puis quand je dis fausses nouvelles, hein, c'est dont l'intention est vraiment de tromper la personne, là, pas des... Ouais. Donc, c'est vrai que c'est un enjeu présentement, là.
Puis, est-ce qu'il y a un certain démographique, une certaine partie de la population qui est plus propice à se faire influencer, à se retrouver justement sur ces pages, ces groupes d'extrémistes de droite?
Ça, c'est aussi une question très difficile. C'est une question que, en fait, les psychologues s'intéressent beaucoup. On a vu, par exemple, la présence des hommes, surtout qui est un peu plus âgé. On voit aussi des gens dont, comme je dis, dont les valeurs sont plus axées sur l'ordre, le sacré, la conservation des choses, c'est-à-dire un tempérament conservateur. On va avoir plus tendance à y aller vers ces sites-là. Cependant, c'est ça qui est tout le problème des études en ligne. Notre problème présentement comme chercheur, c'est qu'on retrouve beaucoup les commentaires, on est capable d'évaluer qui ça touche, comment, où ça va, mais c'est très difficile de porter un sondage, c'est ceux qui sont là-dedans ou qui contribuent à ces sites-là, et ce n'est pas des gens qui aiment se faire interviewer ou qui aiment répondre à des questions principalement, parce que justement, ils ont un vrai gros scepticisme envers les journalistes corrompus et la recherche qui avait un biais entre eux, donc très difficile d'avoir accès à ces groupes-là.
Et puis, est-ce que certains de ces groupes-là sont victimes ou plutôt sont nés de ce qu'on appelle dans le jargon populaire, pardon, du astroturfing ou comme on l'a adopté ici au Canada, le similitantisme, mot que j'ai appris aujourd'hui. Est-ce que certains de ces groupes-là sont nés justement de ce phénomène-là ou il n'y a pas de moyen de le prouver ou du moins il y a des preuves du contraire?
Ce phénomène-là, en fait, la seule chose que ça fait, c'est que ça amène des gens qui ne sont pas nécessairement des extrémistes. Des gens qui ont quelques opinions politiques, qui vont voter conservateur, par exemple, ou qui n'aiment pas, par exemple, le premier ministre Trudeau, ils vont voir un site qui vont confirmer finalement tous leurs biais politiques, puis ils vont adhérer. Puis une fois qu'ils adhèrent, ben, qu'est-ce qui est bien pour eux? De ces sites-là, c'est qu'à partir de ce moment-là, ils vont diffuser d'autres informations dont la personne n'aurait pas nécessairement adhéré si ça avait juste été de celles-là. Je ne sais pas si tu pourrais faire une bonne définition là, pour les gens qui ne connaissent pas le phénomène, là. De mémoire, là, je ne suis pas.
Oui, alors le astroturfing, c'est tout simplement quand une entité corporatrice avec beaucoup d'argent va financer un mouvement pour donner l'illusion que c'est un mouvement qui vient du peuple, un mouvement grassroots dans le fond. Alors, on sait qu'aux États-Unis, dans la dernière année, par exemple, il y a beaucoup de protêtes d'extrême droite qui étaient des protêtes qui étaient financées justement à travers du astroturfing.
Puis, quoi, qui est intéressant, c'est aussi, il y en a qui sont, comment je sais, il y en a qui sont honnêtes avec leur financement. On va parler bientôt sûrement de Proud Canada ou Proud Ontario, qui est une organisme qui est honnête, dans le sens où on sait qui ce qui est derrière, on sait comment c'est financé. Et tandis qu'il y a d'autres sur Internet, dont je n'aimerais pas de nom pour ne pas donner de poursuites civiles, mais qui se présentent comme des plateformes de discussion. Mais c'est eux qui lancent les thèmes. Et les thèmes vont tourner toujours sur le pétrole, sur les taxes. Ils vont envoyer en disant, non, mais on n'influence pas les gens, on va juste vous donner comment de taxes vous allez payer cette année, qu'est-ce que vous pensez de la nouvelle politique. Mais implicitement, essayent de donner des biais dans la population pour essayer de finalement convaincre les gens plutôt vers un bord de la politique. Donc, ça peut être vraiment pernicieux, hein.
Puis en ce moment, quels sont les impacts mesurables sur la politique néo-brunswickoise de cette montée de la droite?
Là, on parle Internet et non Internet, là. Ça, c'est compliqué à évaluer parce que ça joue à plusieurs facteurs. On veut pas, on est aussi influencé avec ce qui se passe à travers le monde. Fait qu'on a vu une résurgence des groupes après Trump. On voit des backlash. Par exemple, quand la société se polarise pendant COVID, ça augmente les extrêmes dans une société. On a vu que ça peut-être était à des facteurs qui ont amené des partis de plus de droite, comme le People Alliance, à percer aux élections. Par la suite, on a vu aussi que le fait que nos nouveaux premiers ministres, qui est prêt à écouter certains groupes, comme l'Anglo Society, mène des gens à réinvestir des groupes qui pensaient qu'ils n'avaient pas de voix parce que maintenant, ils ont des voix. Mais en même temps, comme qu'on l'a vu avec des groupes d'extrême droite, disons qu'on parle des partis politiques d'extrême droite au Nouveau-Brunswick, ça vient et ça part. C'est-à-dire, on a eu le CORE, c'est disparu. Là, maintenant, on a eu le People Alliance. Puis même dans l'extrême gauche, hein, on a eu le Parti acadien dans les années 70, c'est disparu. Donc, on a un retour du Parti vert aujourd'hui. Est-ce que ça va pouvoir continuer? Encore là, puis même aujourd'hui, le Parti vert, je ne sais pas si on pourrait le considérer d'extrême-gauche, vu le déplacement général là, des idéologies là, vers la droite. Donc, c'est vraiment difficile de se dire qu'est-ce qui a causé quoi. Mais c'est vrai qu'on voit qu'il y a une augmentation des idées de droite, comme un retour du balancier qui se passe présentement dans la société.
Et une question très large, probablement très difficile à répondre, est-ce que cette montée en ce moment est dangereuse? Est-ce que ces groupes-là sont dangereux pour le construit politique de la province?
Tout dépend de ta définition de dangereux. Si on parle de violence, je peux dire probablement un, deux cas. Si on regarde la population du Nouveau-Brunswick, on n'est pas 1 million. Le cas de violence politique est très bas. Ça dépend des sujets aussi, c'est-à-dire, par exemple, durant la dernière élection, la haine anti-francophone n'était pas présente, tandis que l'élection précédente, elle l'était. On a vu que le président de la SNB avait reçu des menaces de mort. Donc, ça va probablement plutôt se présenter sous forme verbale, d'attaques, d'agressions à travers l'Internet, les médias sociaux, parfois en public. Rarement de façon très violente. Quoique ça existe, il ne faut pas l'enlever, là, mais encore là, en pourcentage, on ne parlera pas de... Disons, ce serait rare qu'on verrait un groupe de 10 personnes qui fait de la violence armée de droite au Nouveau-Brunswick, ça m'étonnerait. Là, est-ce que ça a des conséquences sur la politique? Assurément, dans le sens où ça va faire élire des partis pas extrémistes conservateurs, mais plutôt conservateurs, parce que ça va faire perdre des votes à la gauche. Toutefois, on a vu que ça a donné sur les passes publiques des places pour des groupes plus modérés, parce que l'Anglo Society n'est pas un groupe que je considère d'extrême droite, malgré qu'il y a des gens d'extrême droite dans le groupe. Mais alors, ça leur donne une place, parce qu'on a des gouvernements qui prêtent oreille à d'autres sortes de groupes. Donc, encore là, c'est de voir qu'est-ce qu'on veut dire par dangereux.
Puis peut-être plus précisément, on regarde au groupe Facebook. On regarde, par exemple, à New Brunswick Proud. Est-ce que l'information qui est disponible là-dessus, qui tend vers la droite, est-ce que c'est de la fausse information ou tout simplement de l'information présentée d'une manière qui avantage le point de vue de la droite?
Ouais, dans des cas de comme Proud New Brunswick, qui est le même organisme que Proud Canada ou Proud Ontario, là, c'est les mêmes gestionnaires. Eux ont vraiment établi un succès incroyable au Canada depuis Kathleen Wayne en Ontario, ce qui ont réussi à vraiment mobiliser les électeurs. Fait que le Nouveau-Brunswick au Québec sont juste pour essayer sur divers communautés. Ils ont resté vraiment clean. Fait que leur procédé habituellement, c'est d'utiliser des articles de journaux très légitimes, en posant une question sur l'article, toujours sans jamais prendre position, du genre comme « Oh, le gouvernement Trudeau a fait quelque chose de mal, qu'en pensez-vous? » Étonnamment, il n'y a jamais rien de bon concernant tout quoi ce qui se trouve à gauche dans les news qui sont diffusées. En les news, parfois, il va y avoir des appels à des événements spéciaux, genre le temps des fêtes, se rappeler, se commémorer par exemple, les vétérans, le 11 novembre. Donc, il va y avoir toutes sortes de sentiments qu'on va aller chercher, mais ça va toujours être très, très émotionnel. On va toujours aller chercher le shock value. S'il y a quoi qui est choquant moralement, on va aller le présenter. Quelqu'un qui a battu un enfant ou des choses comme ça, on va le présenter puis sans donner de contexte, sans biaiser les gens. Et là, les gens contribuent dans la discussion. Et c'est là qu'on voit vraiment les idées, quel type de gens qui se trouvent dans ce groupe-là. Donc, tu vois que c'est un peu pernicieux parce que c'est très, très rare qu'ils vont publier des articles eux-mêmes sur l'actualité. Parfois, ils vont faire quelques graphiques qui est vrai, mais morcelé, c'est-à-dire... Par exemple, on a comparé les 5 partis, c'est à vous de faire votre choix, mais les 4 thèmes des 5 partis, c'était comme leur place sur le pétrole, sur la taxe du carbone, puis sur la taxe en général. Enfin, là, il n'y a pas la santé, il n'y a pas l'éducation, il n'y a rien de ça. Fait qu'ils demandent aux gens de prendre position, mais l'information est juste.
Et comment on fait pour lutter un peu contre cette malhonnêteté-là? Est-ce que c'est le travail gouvernemental? Est-ce que c'est un travail des compagnies comme Facebook ou Twitter? Est-ce que c'est le travail de la gauche politique? Est-ce que c'est le travail du peuple? Que doit-on faire pour remédier justement à cette situation?
Bon, encore là, ça c'est touché, puis là ça rentre d'un côté où je suis moins, c'est-à-dire que c'est pas la question des chercheurs, c'est vraiment une question de politique. C'est-à-dire, c'est une question de société. Qu'est-ce qu'on veut avoir en ligne? Moi, j'ai toujours défendu la liberté d'expression. À partir du moment qu'on ne tente pas de corrompre les gens, c'est-à-dire de vraiment faire des fake news, là, qui cherchent vraiment à tromper. Chacun, je veux dire, on peut voter pour le Parti conservateur, on peut voter pour le Parti libéral. Mais là, il y a plusieurs facteurs. Si on parle de la haine en ligne, ce qu'on on parle vraiment là, pas des posts de Proud New Brunswick, on parle des commentaires haineux qu'on peut retrouver des gens. Facebook lui-même et Twitter ne savent pas comment gérer ça. Ils ont même demandé au gouvernement d'intervenir. Le gouvernement a fait un plan numérique concernant la haine en ligne qui demande les plateformes à se confirmer. C'est pas encore développé, on y est pas encore, c'est difficile à taguer qu'est-ce qui relève de la haine puis ce qui ne le relève pas de la haine. Parce qu'un mot peut être employé dans différents contextes. Donc, est-ce qu'on enlève une insulte? Qu'est-ce qui s'est considéré comme une insulte? Parce que quelque chose, tu me diras à moi, si je ne trouve pas ça insultant, mais je le dis à quelqu'un d'autre ou à une minorité, je trouve ça insultant. C'est très difficile pour eux à coder ça sur l'Internet. Et là, c'est une question que tu n'as pas posée, mais que je pense qui est intéressante, c'est, mais finalement, est-ce que ça fonctionne? On n'est pas si sûr que ça. C'est-à-dire que, par exemple, à la dernière élection fédérale, Justin Trudeau a clairement, là, mais sans aucun doute, perdu la guerre des mèmes. Toutes les partis se sont mis sur lui. Je dirais peut-être passé la moitié des mèmes, là, sur l'Internet étaient contre Justin Trudeau. Le NPD faisait un peu mieux dans sa fabrique de mèmes, mais c'était pas, il n'y avait pas beaucoup. Pourtant, Trudeau a gagné une majorité. Fait que si les mèmes gagneraient, si la désinformation gagnerait, bon, est-ce que ça change l'opinion des gens sur certains sujets? Comment ça amène les gens à voter différemment ou à appuyer différemment certaines lois en particulier? Là, on n'est pas sûr parce qu'il y a tellement d'influence pendant le premier jour à la fin d'une session de vote que c'est extrêmement difficile de savoir qu'est-ce qui a été un facteur. Est-ce que c'est plus la désinformation? Est-ce que c'est certains groupes en ligne? Est-ce que c'est d'avoir mis sur la place publique certains sujets? Est-ce que c'est les mêmes? Alors, très difficile de savoir qu'est-ce qui cause quoi.
Puis, on va terminer ça là-dessus, je crois. On voit qu'avec, justement, qu'avec les mèmes, puis avec ce courant-là, une chose qui est quand même assez mesurable, c'est le déplacement de la fenêtre d'Overton vers la droite. Alors, on voit qu'il y a beaucoup de partis qui prennent des positions un peu plus à la droite que leur position traditionnelle. Est-ce qu'on croit que c'est un phénomène qui va continuer ou qui a déjà été exaspéré? On a peut-être une minute pour ça.
Ben oui, ben je veux dire, l'histoire de l'humanité nous montre que ça change, ça reste jamais le même. Moi, quand j'ai commencé à étudier l'extrémisme, c'était la question de l'islamisme. C'était la montée de l'islam radical en Europe, c'était la montée au Canada des gens qui partaient pour Daesh. Et il y avait des, vous vous rappelez toutes des tueries. Maintenant, on ne parle plus de ça. On parle de la montée de l'extrême droite au Canada, puis c'est maintenant là que les politiques publiques s'en vont, puis même aux États-Unis, Biden va tout ouvrir une politique publique sur l'extrême droite américaine. Et ainsi de suite. Dans les années 60-70, on aurait pu parler des communistes puis des anarchistes. Alors, dur à prévoir, bienveillant celui qui va essayer de prévoir l'avenir, mais chose est certaine, c'est que l'extrémisme fait partie de la démocratie, ou même, je dirais, même un peu partout, mais à la limite. La démocratie se nourrit d'idées extrêmes. Hein? Le droit de vote des femmes, l'égalité pour tous étaient des idées extrêmes à une certaine époque où personne ne les croyait. Donc, il n'y a pas juste du négatif à l'engagement radical. Mais c'est de savoir, hein, comme société, quelles barrières qu'on veut mettre pour dire ça fait partie de notre jeu politique, puis ça devrait en être exclu. Puis ça, je pense que c'est une question que la société et pas les scientifiques doivent répondre.
Excellent. Bien, merci beaucoup. Il est post-doctorant au Centre Hate Bias and Extremism de l'Université Ontario Tech. Gilbert McLaughlin, merci beaucoup. Discussion très intéressante.